tenir le geste et laisser le sens, celui qui nous tue, s'en aller dans le vent.
C'était Anne Passeo dans Radio Biodive et maintenant on va passer aux sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, pour commencer, deux sorties qui concernent les rapaces nocturnes, si vous avez envie de découvrir ces belles espèces. Donc, vous avez une petite présentation de la LPO le 3 mars à 20h30 à la salle du Parc Urbain des Bruyères à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et on a aussi une autre sortie qui est cette fois réalisée par le GON, donc c'est le groupe ornithologique normand, le samedi 14 mars à 19h aux boucles de pause. Autre sortie qui concerne d'autres animaux, donc on a le dimanche 8 mars à 14h au domaine de Chambray, où vous pourrez partir à la recherche des pontes d'amphibiens sur les différents points d'eau du site, et c'est organisé par le lycée de Chambray. Le jeudi 12 mars à 18h30, on vous propose une formation du jeudi de la LPO sur les milieux naturels de Normandie, et ça se passera à la mairie du Val-David. Dans le cadre des Découvrez la nature dans l'heure, on vous propose aussi une animation pour tailler les pommiers d'un verger patrimonial avec les jardiniers de l'heure. Donc ce sera le 14 mars à 14h30. Et dernière petite sortie que je vous propose, donc c'est le mercredi 18 mars à 14h avec le Conservatoire des espaces naturels de Normandie, où vous pourrez retrouver un spécialiste qui vous emmènera en forêt de la Madeleine à Évreux pour découvrir le monde fascinant des animaux minuscules qui peuplent la forêt. Vous pourrez retrouver toutes les sorties infos sur le site de l'émission, et si vous souhaitez faire la promotion de vos sorties nature, vous pouvez nous contacter. On vous demandera juste de faire un petit enregistrement qu'on diffusera à la prochaine émission.
Merci beaucoup Camille. Eh bien maintenant ça va être les conseils de lecture.
Eh bien, triple bus, tête de linotte, bécasse, cervelle de moineau, nombre d'expressions peu flatteuses associent les oiseaux à la bêtise ou à l'ignorance. Le livre que nous allons vous présenter met à bas toutes ces représentations péjoratives en se basant sur de nombreuses études scientifiques menées de par le monde. Ce livre, Le génie des oiseaux, de Jennifer Ackerman, se base en effet sur une immense bibliographie de chercheurs, ornithologues, biologistes et éthologues. Même si certains passages peuvent sembler ardus, il se lit plutôt aisément, car il est composé de plusieurs parties qui peuvent être même lues indépendamment. Ces parties, magie technique, compétences sociales, virtuosité vocale, aptitude esthétique, ingéniosité spatiale et temporelle, génie de l'adaptation. Tous ces thèmes sont largement illustrés par des exemples précis et parlants, d'anecdotes et d'observations faites par l'auteur. Quelques exemples qui vous donneront sûrement l'envie de lire cet ouvrage. Par exemple, un corbeau de Calédonie se crée un outil, en l'occurrence un crochet, pour attraper un petit seau placé au fond d'un tube. Ou encore l'astuce de corbeau plaçant des noix à un feu tricolore et attendant qu'elles soient écrasées pour les manger. Certains corbeaux sont même capables de retenir le visage d'un expérimentateur qui les a tourmentés en le reconnaissant parmi les milliers de personnes traversant le campus. On observe aussi, par exemple, chez les geais, certains signes d'empathie. Des scientifiques avaient déposé un cadavre de geais sur une place où ils avaient l'habitude de venir s'alimenter. Le premier arrivé sur le site se met à émettre un appel d'alarme glaçant, et tous les geais du coin cessent toute activité pour venir entourer la dépouille, et restent là plus d'une demi-heure. Ils ne viendront pas pendant 2 jours se ravitailler à cet endroit. Concernant les compétences vocales, on voit qu'elles dépassent largement la seule intention de séduire une partenaire ou de protéger un territoire, mais interviennent dans la cohésion sociale. Les oiseaux peuvent même chanter pour le plaisir. On connaît davantage le rôle de l'esthétique dans la séduction. Plus le mâle maîtrise son chant ou sa danse, plus il est censé être habile et intelligent. Exemple amusant d'habileté vocale, un cochevier huppé a appris à reproduire les 4 ordres sifflés par un berger. En avant, plus vite, stop et ici. C'était si bien imité que cela faisait tourner les chiens en bourrique. De plus, ces imitations se sont transmises à d'autres alouettes qui ont constitué un dialecte local. Le sens de l'orientation est aussi largement abordé, il n'a rien à envier à nos GPS. Un dernier chapitre, consacré à l'adaptation, fait la part belle aux moineaux domestiques. On y apprend comment il s'est répandu dans le monde et avec quelle capacité, mais aussi sa régression très importante dans le monde actuellement. Même si les dernières études ont tendance à montrer qu'il y a une stagnation dans cette perte. Un exemple parmi d'autres à propos des moineaux. Certains moineaux ont été observés à ouvrir des portes automatiques d'une cafétéria. Ils volaient devant le capteur et se posaient dessus pour passer la tête et déclencher l'ouverture. Alors que la porte était seulement installée depuis 2 mois, donc l'apprentissage était très rapide. En conclusion, même si contrairement à ce qu'annonce la couverture, cet ouvrage ne se lit pas comme un roman, son chapitrage, c'est des nombreuses évocations aux imagées, en permettent une lecture aisée et agréable. Son importante bibliographie permettra à ceux qui voudront approfondir certains thèmes d'être bien orientés. Ceux qui voudront prolonger le plaisir pourront lire, du même auteur, le volume suivant, intitulé « La voix des oiseaux ».
Merci Joël, c'était super. On a tous envie de... Peut-être même on achètera ce livre pour notre bibliothèque, non ?
Eh bah écoute, pourquoi pas, ouais, ça donne envie en tout cas.
Voilà. Bah écoutez, bah, il est temps de réécouter notre petit jeu. Eh bien, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir reconnu. C'est une grive. Mais quelle grive ?
Il y en a plein.
Ah, c'est la grive de Rennes. Alors la grive de Rennes, elle se caractérise par le fait qu'elle va avoir ce sifflement qui rappelle un peu le début du chant d'un merle, mais c'est court, c'est toujours un peu la même phrase, c'est un peu triste, et puis elle répète pas ses phrases comme la grive musicienne. Voilà, vous avez trouvé, bravo. Eh ben, il nous reste à faire, à remercier chaleureusement nos deux
nouveaux acolytes,
nouveaux comparses.
Bah, merci de nous avoir accueillis au sein de l'émission.
Merci Camille pour les sorties et merci Joël.
Bah, merci pour cette invitation qui n'a pas été de tout repos au départ.
Ouais, mais de mois en mois, tu vas prendre le coup.
Merci Damien, et puis on remercie aussi nos interviewés.
Et bah oui, merci à Cassandre, à Arnaud qui ont participé au reportage, et à Benjamin et Myriam du département pour l'interview.
Et puis évidemment, nos deux petits jeunes qui nous ont fait les génériques, nos deux petits musiciens, Clotaire et Aliénor. Et bien maintenant, le mot de la fin est à la nature.
Et c'est le sonneur à ventre jaune.
Qui est un crapaud
très rare, mais il y en a uniquement dans l'Eure. Dans toute la Normandie, il n'y en a que dans l'Eure. Donc c'est le sonneur à ventre jaune.
Et enregistré par Alex.
Au mois prochain. Salut, salut. Oh!
Du lundi 6 au mercredi 8 juillet 2026, Principe Actif a installé son studio sur le canton d'été à Rugles. Une équipe d'une douzaine de journalistes, jeunes journalistes, aura fait du reportage, des interviews, des micro-trottoirs. Enfin, ils proposent de vous faire découvrir cet événement qu'ils ont vécu au plus près.
Qu'est-ce que vous voulez faire, allez faire pendant vos vacances ?
Partir en vacances, profiter du beau temps et puis de la plage.
C'est plein de trucs que je veux faire.
Alors moi, j'aimerais bien aller à la plage et aller à la montagne aussi pour voir des cascades.
Qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances ? Déjà là, tu vois, je suis au canton d'été. Avec mes garçons, avec leurs neveux. Où on va passer cette semaine. Et après, je vais au soleil chez moi, en Afrique.
Eh bien, j'aimerais bien partir en vacances à la mer. Et puis, je viens aussi au canton d'été avec mon bébé.
Aller à la plage, aller à la bibliothèque, aller peut-être à la piscine.
Mm-hmm. Oh, on va faire plein d'activités sportives pour les enfants.
Me reposer.
Alors moi je suis pas en vacances parce que c'est moi et ma direction qui organise le canton d'été. Moi je travaille ici.
Moi, dormir.
Je vais aller à la plage et faire plein de petites activités avec mes enfants.
C'est quoi vos vacances de rêve ?
Un endroit où il fait très 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 chaud et où je peux nager avec des poissons.
Sous les palmiers.
Oula, mes vacances de rêve. Bah, cet été, parce que je vais voir ma maman, je vais voir mes soeurs, je vais passer des moments en famille. Donc pour moi, ce sont mes vacances de rêve.
Mes vacances de rêve, eh bien, sur les îles.
Aller dans les îles.
Mes vacances de rêve, ça c'est une bonne question. Être en vacances toute l'année.
La piscine, la plage, s'amuser.
Mes vacances de rêve, ce serait sur une île déserte où il n'y a personne, où il fait beau tout le temps, sous des palmiers avec une eau super claire et où on puisse voir ses pieds.
Dormir ! Dormir sur un palmier !
D'aller sur une île où il fait chaud.
Qu'est-ce que c'est l'été pour vous ?
L'été pour moi, c'est du soleil. du soleil, mais pas 38 degrés. Un petit peu de soleil. Des gens heureux, voilà. Les fleurs.
Les vacances.
On s'amuse, on profite, c'est l'éclate quoi. C'est trop bien. C'est le soleil, le barbecue, l'apéro et les matchs de foot.
Eh ben, c'est un peu trop chaud pour moi.
Avoir trop chaud comme aujourd'hui.
Le soleil, l'apéro et la mer.
Alors pour moi, l'été, c'est quand il y a du soleil et qu'on peut manger plein de glace.
L'été
C'est rêver. Rêver que je dors sur un palmier.
Pour moi, l'été, c'est le soleil, être avec les amis, la famille.
Merci.
De rien.
Au revoir. Bonjour Patrick, nous sommes les enfants du centre d'Embenet. Nos prénoms sont Louise, Ambre, Noah, Liwen, Elena, Thiago et Tom. On voudrait en savoir plus sur votre métier. Pouvez-vous nous en parler ?
Bonjour les enfants, bonjour tout le centre aéré. Et puis voilà, moi je suis photographe, c'est mon métier. Donc mon métier c'est d'aller un peu partout dans le monde pour regarder un petit peu ce qui s'y passe, faire des photos et puis ramener les photos pour qu'elles soient publiées dans la presse, pour que tout le monde puisse voir un petit peu ce qui se passe partout dans le monde. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le reporter photographe. C'est mon métier, voilà.
Merci. Comment vous vous appelez ?
Ah, moi je m'appelle Patrick Forger. Donc j'habite à Rugles, donc je suis un enfant du pays, un enfant de Normandie, et puis je vous raconterai, mais j'ai fait plein d'autres choses.
Quel est votre métier ?
En quoi consiste-t-il ?
En quoi consiste-t-il ?
Ouais, donc mon métier, ça consiste à faire des photos, donc d'aller rencontrer les gens à l'autre bout de la planète, et de discuter avec eux, de voir qu'ils me racontent un petit peu ce qu'ils font chez eux, comment ils font les choses, qu'est-ce qui se passe dans leur pays, pour que moi je puisse raconter aussi ce qui se passe là-bas, pour que vous soyez au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Donc en général, je pars avec un journaliste, donc on fait ce qu'on appelle des reportages, un petit peu comme on fait ici à la radio, mais donc là c'est plutôt pour la presse, pour l'écrit. Donc voilà, c'est publié dans des magazines, des petits magazines comme Mon Quotidien, que vous connaissez peut-être, mais aussi d'autres magazines qui sont plus à destination des adultes. Et puis voilà, avec mes photos, avec les textes de la journaliste ou du journaliste, on raconte les histoires, on raconte ce qui se passe partout sur la planète.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Alors, ça fait plus de 30 ans. À chaque fois, je dis ça fait beaucoup d'années, hein, 30 ans. Hein. C'était pas né quand j'ai commencé. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier-là. Et puis, donc, au début, j'ai travaillé essentiellement sur la France. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé pour de plus en plus de magazines. Et puis, je suis parti de plus en plus loin aussi. Voilà. Et puis, maintenant, je reviens un petit peu par ici parce que je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle Terre Fragile. Et puis, qui fait plein de choses aussi pour la planète.
Comment avez-vous appris à faire de la photo ?
Alors, pour faire de la photo, le mieux, c'est quand même de faire une école photo. Alors, il y a des gens qui sont complètement autodidactes. Autodidacte, ça veut dire que, on apprend par soi-même, on apprend avec ce qu'on voit des autres et tout ça. Mais bon, une école photo, ça permet quand même d'acquérir les bases, un petit peu comme dans tous les métiers, c'est quand même bien d'avoir les bases. Après, le métier de photographe, c'est aussi avoir un œil, avoir un regard. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu acquises, mais les bases de l'appareil photo, comment on fait des photos, comment on se positionne par rapport à la lumière. Photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc du coup, la lumière est toujours très très importante quand on fait des images.
Est-ce que vous avez fait un autre métier dans votre vie ?
Oui, j'ai travaillé dans une banque quand j'étais... Quand je suis sorti de l'école, en fait, j'ai fait un petit job d'étudiant, et puis les gens ils ont apprécié ce que j'ai fait. Du coup, j'ai travaillé dans une banque à Paris pendant plusieurs années. Et puis un jour, je me suis dit que c'était quand même pas le métier que j'avais choisi et que je voulais choisir mon propre métier parce que c'est important de vivre de sa passion, enfin de ce qu'on aime en tout cas. Ça, c'est des choses que vous allez apprendre aussi, mais c'est important d'avoir envie d'aller au travail le matin et puis de profiter et puis de donner le meilleur de soi-même quand on aime son métier.
En quelle année avez-vous commencé vos photos ?
Ah, j'ai commencé la photo quand j'étais très très jeune parce que j'étais déjà un petit peu passionné de photos quand j'étais enfant. Donc j'ai dû avoir mon premier appareil photo un petit peu avant ma communion, donc je vais avoir 9-10 ans. Et puis après c'était une passion, donc j'ai continué à faire de la photo tout le temps. Quand j'ai travaillé à la banque, et ben tout l'argent que je gagnais, je l'ai dépensé à faire des voyages déjà pour aller faire des photos, pour aller voir le monde, parce que j'étais très curieux de ce qui se passait un peu partout sur la planète. Donc j'ai fait des photos depuis très très longtemps.
Est-ce que tu te rappelles de ta première photo ?
Ah, est-ce que je me rappelle de ma première photo ? Alors je me rappelle de la première photo qui m'a marqué. Alors j'étais à une fête en Bretagne. Et puis voilà, on était avec plein d'amis, on est en train de faire une grande fête en Bretagne. Et puis un jour, à un moment donné, pendant le week-end, il y a deux vieilles dames qui sont passées devant nous avec un vélo, avec des très très vieilles dames. Et puis en fait, ils étaient tellement penchés, on voyait pas leur tête. Et j'ai fait cette photo-là à ce moment-là, et puis j'ai gardé ce souvenir. C'est une photo qui est toujours chez moi, qui m'a toujours marqué, qui plaît aussi beaucoup aux gens. Alors j'étais pas encore photographe de métier, mais voilà, c'est la première photo que j'ai en souvenir qui m'a vraiment marqué.
Où sont prises vos photos ?
Alors comme je te disais tout à l'heure, mes photos elles sont prises un petit peu partout sur la planète. Donc moi j'ai beaucoup voyagé, j'étais spécialisé sur l'environnement. Donc du coup j'étais voir plein de choses qui n'étaient pas forcément des belles choses. J'ai pu aller au Groenland plusieurs fois, au Spitzberg, tout ça pour aller voir un peu la fonte des glaces. J'étais à Tchernobyl pour aller voir la centrale nucléaire qui avait explosé. J'étais couvrir la marée noire, les feux de forêt, beaucoup de catastrophes naturelles. Donc j'ai pas fait que des belles choses, mais j'ai aussi travaillé un peu dans le tourisme. Et là j'allais voir plutôt ce qui était très 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 beau. Voilà, et puis du coup on voit aussi entre la beauté et puis ce qu'on est capable de faire parfois de la planète, l'ambiguïté qu'on a aussi avec notre environnement, tout ça c'était important pour moi de le mettre en image. Et puis aujourd'hui c'est je l'ai mis aussi sous forme d'un jeu de société qui s'adresse aussi aux enfants, essentiellement aux enfants d'ailleurs dans les écoles et les centres de loisirs aussi bien sûr, qui s'appelle le jeu du colibri, voilà, avec des photos, plein de photos dedans.
Avez-vous des décors ou des endroits préférés ?
Alors, la planète, elle est quand même magnifique. Hein. Même si on reste en France, il y a quand même des choses vraiment magnifiques à découvrir. Il n'y a pas forcément besoin de parcourir le monde pour voir des choses exceptionnelles. Je veux dire, on a la chance d'habiter une planète qui est quand même super belle. C'est pour ça que moi, je fais tout pour que les gens prennent conscience et qu'ils y fassent attention. Après, j'ai eu la chance forcément d'aller dans un endroit où tout le monde n'ira pas. J'étais au Groenland. Au Groenland, quand on voit des icebergs, même si ça illustre la fonte des glaces, qui n'est pas forcément très bon pour la planète, c'est quand même très très beau des icebergs quand ils flottent à la surface de l'eau. Donc voilà, c'est des choses un peu uniques que j'ai vues, que j'aime à partager aussi avec les autres en montrant mes photos. Mais il y a plein de belles choses sur la planète. Ça prendrait beaucoup de temps de raconter tout ce que j'ai pu voir, mais voilà.
Quel matériel utilisez-vous pour faire des portraits ?
Alors, pour faire des portraits, pour faire du paysage, pour faire un petit peu toutes sortes de photos, en fait, le matériel de base, c'est d'avoir un appareil photo. Après, sur l'appareil photo, on a ce qu'on appelle des objectifs. Alors, c'est un petit peu là où on capte la lumière, c'est ce qu'on met devant l'appareil photo. Pour faire des portraits, il y a un objectif particulier. Pour faire des paysages, c'est ce qu'on appelle des grands angles. C'est pour prendre un espace beaucoup plus grand sur des paysages. Et puis après, quand on fait la photo animalière, au contraire, on va prendre ce qu'on appelle un zoom. C'est pour rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis essayer de voir de plus près ce qu'on peut voir un petit peu comme avec des jumelles. Voilà. Le portrait, c'est ce qu'on voit un petit peu à l'œil, comme si je vous regarde là tout de suite maintenant.
Combien de temps vous faut-il pour faire une photo ?
Ça peut prendre beaucoup de temps ou ça peut prendre un centième de seconde, un millième de seconde. Donc ça dépend. Des fois, quand on se promène, et ben on voit quelque chose instantané. Clac, on prend la photo, c'est une photo, c'est magique. Ça s'est fait en un microième de seconde, donc très très rapidement. Et puis des fois, on va essayer de choisir, on va essayer de construire la photo. Et donc du coup, ça va prendre beaucoup de temps. Des fois, on a trouvé le cadre, mais il manque quelque chose dans la photo, un élément, un vélo qui passe, une personne qui se promène pour humaniser aussi l'image. Donc des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et puis, il y a d'autres photos qui sont plus des créations, où là, on a les photos dans la tête et il faut les construire. Donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps, ça dépend. Mais bon, ça peut être très très rapide.
Qu'est-ce qu'il se passe entre la prise de la photo et l'accrochage de la photo ?
Ah, qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai pris ma photo et puis le moment où je vais l'exposer, par exemple ? Alors déjà, quand on prend la photo, déjà on va regarder qu'elle soit bien nette, qu'elle soit bien belle et tout ça. Donc voilà, c'est la première étape quand on fait des photos, c'est de faire la bonne sélection. Donc de choisir la bonne image, qui n'est pas forcément si évident que ça, parce que des fois on en fait plusieurs, et puis y en a plusieurs qui nous plaisent, mais il faut en choisir qu'une seule, parce que souvent, si on montre deux fois les photos qui sont presque pareilles, ça va pas plaire aux gens. Même si nous, on est très, tu vois, il y a un peu d'affection par rapport aux images qu'on prend, parce que c'est nous qui les avons faites. Mais bon, il faut savoir aussi se décider, et puis choisir, c'est renoncer. Donc du coup, il faut choisir la bonne photo pour pouvoir la montrer à tout le monde, pour que les gens puissent apprécier. Et après c'est un tirage, donc si on fait une exposition, c'est un tirage photo, donc là ça passe dans les mains d'un laboratoire. Donc là c'est pas moi, il y a des photographes qui font eux-mêmes leur tirage. Moi c'est pas le cas, je fais travailler des gens qui dont c'est le métier de faire des tirages, de mettre en scène tout ça. Et puis après par contre c'est à moi de pouvoir exposer et de mettre en scène de façon à créer une scénographie.
Accrochez-vous vos photos.
Alors, en ce moment, j'ai pas mal d'expositions. Donc j'en ai une qui est à côté de Perpignan, à Sorède. Donc c'est dans un parc animalier, la Vallée des Tortues. C'est une exposition qui s'appelle Terre Fragile, donc une exposition qui tourne beaucoup partout en France. Elle est aussi à l'île de Lonne. L'île de Lonne, c'est les sables de Lonne, c'est en Charente-Maritime, donc elle est en extérieur aussi. Donc c'est aussi une belle exposition en plein air, dans des marais salants, c'est très très beau. Là, ils sont en train d'en installer une aujourd'hui à L'Aïeul. Alors L'Aïeul, vous connaissez peut-être, c'est là où il y a des couteaux, où ils fabriquent des couteaux, L'Aïeul. Voilà, c'est en Aubrac. Et donc là, je vais avoir toute une exposition en plein air dans le village de L'Aïeul. Et puis après, je fais des festivals, pas mal. Donc là, je suis à la frontière suisse. Là, j'étais à Nîmes. Je peux être aussi en Normandie parfois. Ça dépend quand on me demande. Maintenant, j'essaie de répondre le plus souvent pour partager un petit peu ce que je fais. Alors, c'est pas des vraies photos comme on l'entend où on appuie sur un photo, c'est des photos, ce qu'on appelle des photomontages, c'est-à-dire que c'est des photos que j'imagine dans ma tête. Donc je fais les photos en studio, j'ai acheté des photos de la planète à la NASA, à l'Agence Spatiale Européenne, et après j'ai mis en scène ces photos-là pour faire parler les photos, la Terre comme un objet sur lequel on réfléchit. Ça peut être une glace qui fond, et la glace c'est la Terre qui est en train de fondre, voilà, pour pouvoir faire réfléchir les gens à ce qui se passe sur la planète. Il y a une soixantaine d'images comme ça, et voilà.
Comment faites-vous pour garder la passion ?
Alors quand on aime son métier, on est toujours passionné, je pense qu'on apprend toujours, on a toujours envie de découvrir quelque chose de nouveau. Le métier de photographe, le simple fait de faire des photos, la technique proprement dit, elle est acquise au départ assez vite, donc ça c'est pas quelque chose sur lequel on a envie d'apprendre toujours, toujours, toujours. Après on peut changer de matériel, on peut faire plein de choses, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse dans le métier de photographe, c'est de rencontrer, c'est de faire des rencontres, c'est d'imaginer des choses, des projets, de partager avec les autres, de partager ma passion aussi. Et donc voilà, donc ça je pense que jusqu'à la fin, même si un jour je serai à la retraite, j'aurai toujours mon appareil photo et puis que j'aurai envie de continuer à partager ce que je fais avec les autres, parce que les autres ça leur parle, ils ont envie d'échanger, et puis moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous les enfants, parce que je reçois beaucoup beaucoup d'écoles sur mes expositions, parce que c'est une exposition qui est vraiment là aussi pour sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux. Puis en ce moment on voit que les enjeux sont importants, hein. Quand on voit la canicule, comment il fait chaud en ce moment, ça c'est aussi dû au réchauffement climatique. Et ça, c'est des choses que j'aborde dans l'exposition Terre Fragile, justement.
Patrick, j'aime bien vos photos parce qu'il y a plein de gens.